Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h51 à l'écoute de Radio Classique, l'économie au scanner. Trois titres. L'intelligence artificielle est avant tout une opportunité, selon Philippe Aguillon, qui remet aujourd'hui un rapport spécial à Emmanuel Macron. La fonction publique cherche à recruter et pour certains profils, elle est prête à s'aligner sur les salaires du privé. Et puis on verra que le marché de l'immobilier n'est pas en crise dans toute l'Europe. C'est à la fois la promesse de révolution en matière de recherche médicale, de technologie, mais aussi une crainte pour la démocratie, l'information, l'emploi. L'intelligence artificielle fait énormément parler d'elle depuis l'explosion des usages, démarrée avec ChatGPT. Qu'en disent les économistes? La commission sur l'IA rend aujourd'hui son rapport et ses recommandations au président de la République. 6 grandes orientations seront exposées, de la formation au financement. Les 15 experts emmenés par Philippe Aguillon sont formels. Éric Cuoche, la balance bénéfice-risque attendue est positive.
Généraliser l'usage de l'intelligence artificielle pourrait bonifier le PIB de la France de 250 à 400 milliards d'euros par an d'ici 2030-2035 et avec un gain de productivité de l'ordre d'un point et demi. Il s'agit d'un vrai potentiel de croissance, se réjouit l'Élysée. Mais pour cela, il faudra investir 2 à 3 fois plus que le premier plan national lancé en 2018 en faveur du développement de l'intelligence artificielle, initialement d'1,5 milliard d'euros. L'argent pourrait venir d'une réorientation de l'épargne, suggère le rapport. Un investissement nécessaire. Aujourd'hui, la France forme 10 à 15 000 experts. À terme, il en faudrait 50 à 60 000 par an, car aucun secteur économique n'échappera à la révolution de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on estime que 5% des métiers pourraient disparaître, mais d'autres pourraient se créer. L'intelligence artificielle, c'est une évolution des postes, pas un effacement des métiers, explique l'Élysée. Dans 19 professions étudiées sur 20, les tâches principales ne peuvent être remplacées par l'IA, abonde le rapport.
Éric Cuoche, ce rapport est donc remis par Philippe Aguillon, qui sera notre invité vendredi matin à 7h15 dans les Voies de l'économie, ici même. On reparle d'intelligence artificielle aussi tout à l'heure, à 7h15, avec François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, sur le cas précis de Téléperformance, attaqué en bourse sur ce sujet de l'IA. La bourse, plus globalement, encore un record hier pour le CAC 40, en clôture, 8087 points, le Dow Jones a gagné 0,60%, le Nasdaq a pris 1,5%, le Nikkei en ce moment recule de 0,39%, l'euro est à 1,0926, le baril de Brent est à 82 $. On note par ailleurs que les dividendes au niveau mondial sont au plus haut historique selon l'étude annuelle du gestionnaire d'actifs Janus Anderson qui a recensé 1200 très grandes entreprises versant au total 1655 milliards de dollars en 2023. Alors cela va-t-il ralentir en 2024 avec le ralentissement économique? La Banque de France révise en tout cas un peu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, 0,8% au lieu de 0,9%. Un secteur en particulier est en difficulté, le logement et l'immobilier. Jusqu'à vendredi se tient à Cannes le MIPIM, c'est le plus grand salon international des professionnels de l'immobilier. Et on se rend compte, en élargissant la focale, qu'en Europe, certains pays souffrent moins que d'autres de la hausse des taux d'intérêt. C'est ce que nous explique Henri-Aurélien Natter, directeur de la recherche chez Primonial REM.
Les pays qui résistent finalement le mieux, c'est le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, la Belgique et l'Italie qui est à peu près stable, alors qu'on voit des baisses de prix en fait en Autriche, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Finlande. Et puis on a un pays qui a été particulièrement impacté, c'est la Suède. On va avoir des baisses de prix de l'ordre de plus de 10%, ce qui fait que la situation est meilleure que dans d'autres pays. En fait, c'est vraiment la structure financière d'accès aux prêts si on est dans des pays à taux fixe ou à taux variable.
La fonction publique ne fait plus rêver. En France, 70 000 postes sont à pourvoir. Il manque des vacataires, des contractuels et des fonctionnaires. Alors pour tenter de trouver des candidats, 70 employeurs publics ont tenu un stand hier au salon Choisir le service public. Reportage sur place de Zoé Palier pour Radio Classique.
Des noms de métiers en tension écrits en gras derrière le stand de la métropole de Bordeaux qui veut recruter cette année 1500 agents publics.
Par exemple, des contrôleurs de gestion, on va aussi chercher beaucoup dans le bâtiment.
Véronique Grenier, responsable des ressources humaines.
Donc là, on n'a pas ou très très peu de candidatures. Par exemple, quand je recherche un mécanicien, le salaire d'entrée, c'est le SMIC. Dans le privé, ils reçoivent un salaire beaucoup plus élevé.
Pour d'autres métiers plus qualifiés, les salaires progressent, mais il s'agit surtout de contrats à durée déterminée.
J'ai 30 ans, j'ai travaillé que dans le privé. Là, Et chaque fois que je dis que je travaille dans l'informatique, il y a les yeux qui s'illuminent. Et j'ai aussi trouvé des salaires plus élevés que mon salaire actuel. En particulier au Sénat, ils cherchent des gens de mon domaine. Il y avait marqué 5000 euros brut.
Pour attirer des candidats, les employeurs n'insistent plus sur la sécurité de l'emploi. Ils mobilisent de nouveaux arguments.
Dans votre recherche de travail, quels sont les facteurs que vous privilégiez en priorité ?
Sans aucun doute, le sens du travail.
Et le sentiment d'utilité. Très bien.
Le ministère de l'Éducation nationale cherche 50 nouveaux informaticiens. Olivia Lemarchand, chef du service RH.
On leur parle de projets qui tournent autour de l'organisation des examens et du baccalauréat, des applications qui permettent de servir les boursiers. On les ramène à leur parcours d'élèves.
Mais il faut aussi améliorer les conditions de travail, estiment plusieurs employeurs, pour s'aligner sur le privé, voire pour le devancer, en proposant par exemple la semaine de 4 jours.
Zoé Pallier. Et puis, mieux encadrer les acteurs de l'ultra fast fashion comme Shein, qui sort plusieurs milliers de nouvelles références de vêtements chaque semaine. Une proposition de loi d'Horizon a été validée par la Commission du développement durable dans une ambiance de concorde, avec des propositions portant sur des pénalités financières, publicité interdite, consommateurs mieux informés. Réaction de la porte-parole de la marque chinoise Shein, Marion Bouchu.
Dans sa forme actuelle, cette PPL, elle cible l'activité de quelques acteurs qui sont extrêmement performants et sans étude d'impact ni d'évaluation sur les bénéfices environnementaux réels. Et par ailleurs, sur les effets aussi que pourrait avoir cette PPL sur les consommateurs français.
Et vous accepteriez qu'il y ait un message sur le site disant « attention, risque de surconsommation, risque d'achat trop important » ?
Tout à fait, on est tout à fait prêt à afficher certains messages sur notre site internet qui encourageraient une consommation responsable, comment prendre soin de ses vêtements. Il y a beaucoup de choses à faire et on est d'accord que c'est des efforts collectifs qui doivent être menés par l'ensemble des acteurs.
Marion Bouchu avec Céline Cajoulis pour Radio Classique. Après l'ultra fast fashion, l'ultra fast habillé dans une seconde.